Écho de la bonne nouvelle. Écho de la bonne nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Un glorieux médecin. Supposons que vous soyez malade, couché sur votre lit, sans espoir de guérison. Or, un très grand personnage de votre pays apprend dans quel état vous vous trouvez et envoie auprès de vous son fils qui est un médecin renommé. Celui-ci vous ausculte et vous offre les médicaments dont vous avez besoin pour guérir. Qu'allez-vous faire? Refuserez-vous les soins et les médicaments qui vous rendront une bonne santé? Refuserez-vous celui qui, plein de miséricorde, a quitté sa belle demeure pour venir chez vous? Un tel affront serait presque impensable. Or, vous êtes effectivement malade, d'une maladie qui s'appelle le péché et qui vous conduit immanquablement à la mort, la seconde mort. Mais Dieu ne veut pas que vous restiez dans un tel état. Savez-vous ce qu'il a fait pour vous? Le Dieu des cieux, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui sait tout, voit tout, entend tout, ce Dieu si glorieux a envoyé son propre Fils pour vous guérir de cette terrible maladie. Jésus-Christ, le Fils unique et bien-aimé de Dieu, est venu sur la terre vous parler de l'amour de Dieu pour vous. Il est mort sur la croix à votre place pour que vous puissiez être sauvés. Ce grand salut qui vous est offert est gratuit, mais il faut l'accepter en croyant en Jésus-Christ. Ne refusez pas celui qui est venu près de vous pour vous guérir de la maladie mortelle du péché. Refusez cette bonne nouvelle, c'est refuser et rejeter le glorieux Fils de Dieu qui s'est abaissé si bas jusqu'à vous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix d'amour du Fils de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux, chapitre 3, verset 15. Deux questions importantes. Saul de Tarse était un homme énergique, très intelligent, très instruit, très religieux, mais il n'était pas converti. Il haïssait le Seigneur Jésus et persécutait les chrétiens, les mettait en prison et les faisait mourir. Alors qu'il allait à Damas, sur le chemin, le Seigneur Jésus l'arrêta et lui parla directement du ciel. C'est dans ce premier contact avec le Seigneur que Saul posa deux questions fondamentales. Nous tous devons aussi les poser au Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Actes chapitre 22, verset 8. Saul ne savait pas qui était celui qui lui parlait du ciel, mais il voulait le connaître. Le Seigneur Jésus a répondu à sa question et durant toute sa vie, il s'est révélé à lui. Saul, devenu l'apôtre Paul, écrivait aux Philippiens « Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » Philippiens chapitre 3, verset 8. Est-ce aussi notre désir de le connaître, lui, dans la plénitude de sa grâce, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa paix, de sa puissance, de sa gloire? À la fin de sa vie, Paul pouvait dire à Timothée, « Je sais qui j'ai cru. » 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Chers amis croyants, appliquons-nous à nous occuper de Jésus-Christ tel que les Saintes Écritures nous le présentent. Disons au Seigneur sincèrement, « Révèle-moi encore quelques gloires de ta personne. » Faisons-le avec persévérance chaque jour. Il le fera. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Sondez les Écritures, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean chapitre 5, verset 39. Que dois-je faire, Seigneur? Actes chapitre 22, verset 10. À ce moment, Saul avait besoin d'apprendre le chemin du salut. Il l'apprit, fut converti, et ensuite, il mit sa vie au service du Seigneur. Comme esclave de Jésus-Christ, il posa toujours cette question. Que dois-je faire, Seigneur? Son premier maître était le diable et le moi. Mais depuis qu'il appartenait au Seigneur, il lui consacra sa vie. Elle lui était consacrée à tel point qu'il écrivait aux Galates, « Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, le corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2. Verset 20. Chers amis croyants, le Seigneur veut nous indiquer le chemin dans lequel nous avons à marcher. Il aime que nous le lui demandions dans la dépendance et l'obéissance. Il nous a acquis tout entier pour lui. N'est-ce pas une grande joie que d'appartenir à un Seigneur si glorieux? N'est-ce pas aussi notre joie de le servir en lui disant honnêtement, « Que dois-je faire, Seigneur ?» L'ouvrier est digne de sa nourriture. Matthieu chapitre 10, verset 10. Que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous ses biens temporels celui qui enseigne. Galates chapitre 6, verset 6. L'hospitalité africaine est bien connue des croyants d'Europe qui viennent annoncer la parole de Dieu. Cependant, il n'y a pas que les Européens qui enseignent la parole de Dieu. Par grâce, le Saint-Esprit a mis à part certains croyants de votre pays pour annoncer la parole. Quel sujet de reconnaissance envers Dieu qui vous donne des serviteurs pour vous parler dans votre propre langue de la personne glorieuse de Jésus-Christ, de son évangile et de la vérité. Ceux qui enseignent apportent aux croyants la nourriture spirituelle nécessaire à l'âme. Pour pouvoir apporter cette nourriture, ces serviteurs de Dieu ont dû passer beaucoup de temps à genoux en prière, à lire et à étudier la parole de Dieu. Comme vous ne pouvez pas rapporter du manioc à la maison si vous n'avez pas travaillé auparavant dans les champs, Ainsi en est-il pour le serviteur qui enseigne la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous invite tous, par le verset cité en titre, à faire participer ceux qui enseignent à tous nos biens matériels. Par exemple, quand un serviteur de Dieu vient dans un village pour annoncer la parole de Dieu, il importe que les croyants lui donnent la nourriture dont il a besoin, lui préparent un lit et peut-être s'occupent aussi des frais que ce serviteur peut avoir en voyageant. Ainsi, l'ouvrier de Dieu peut pleinement se consacrer à l'enseignement de la parole divine. En donnant à un serviteur du Seigneur, on donne au Seigneur lui-même. C'est un grand privilège accordé à ceux qui reçoivent un enseignement spirituel de collaborer de cette façon matérielle à l'œuvre du Seigneur. L'amour pour le Seigneur et l'amour fraternel nous rendent libéraux, généreux et joyeux, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Intercédons pour nos familles. Nous aimons ceux de notre famille. Alors quel bonheur de pouvoir parler à notre Père qui est dans les cieux de tout ce qui les concerne. Que pouvons-nous demander à Dieu pour eux? Demandons la conversion de nos enfants, leur progrès spirituel quand ils appartiennent au Seigneur, leur protection du mal et des ruses de Satan, leur engagement de cœur pour le Seigneur. Ne demandons pas pour eux de l'or ou de l'argent, mais des richesses spirituelles dans le Christ Jésus. Ayons une sincère sollicitude pour les membres croyants de notre famille et prions avec instance pour ceux de notre famille qui sont incrédules afin qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Pour les croyants, l'apôtre Jean écrit dans sa première épître, au chapitre 4, les versets 11 et 21, « Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous avons le privilège de prier pour nos frères et sœurs dans la foi, pour qu'ils soient bénis spirituellement, qu'ils ne se lassent pas sur le chemin de la foi, ni ne s'en écartent. » L'apôtre Paul priait sans cesse pour les Colossiens, pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10. Épaphras combattait toujours par la prière pour ses frères colossiens, afin qu'ils demeurent parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 4, verset 12. Supplions beaucoup le Seigneur pour ceux qui traversent des épreuves telles que la maladie et le deuil, afin que le Seigneur les soutienne et les encourage. En Hébreux 13, verset 13, nous sommes ainsi exhortés à nous souvenir des prisonniers et de ceux qui sont maltraités. Prions pour eux avec persévérance. Pour les serviteurs. Les serviteurs à l'œuvre du Seigneur ont particulièrement besoin de l'aide de Dieu. L'apôtre Paul donne quelques indications sur les sujets de prière pour un serviteur. Priez pour moi afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Éphésiens chapitre 6, verset 19. Un serviteur qui n'a plus de hardiesse, qui est découragé, n'a plus de puissance pour annoncer la parole. Prions en même temps aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer le mystère du Christ, afin que je le manifeste comme je dois parler. Colossiens chapitre 4, versets 3 à 4. Il y a beaucoup d'opposition à l'Évangile. Le Seigneur lui-même doit ouvrir la porte et donner la bonne parole au moment opportun. Priez pour nous, car nous croyons que nous avons une bonne conscience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. Hébreux chapitre 13, verset 18. Prions avec persévérance pour les serviteurs, car ils travaillent pour annoncer les bonnes nouvelles touchant le royaume de Dieu et le nom du Seigneur Jésus. Actes chapitre 8, verset 12. Pour les autorités. Le croyant est exhorté à prier pour les autorités. Les présidents, les chefs de gouvernement et tous ceux qui occupent une place de responsabilité dans un pays ou un district administratif ont un travail difficile. Au lieu de les critiquer, soutenons-les par l'intercession devant Dieu afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2, versets 2 à 4. En effet, dans les temps d'anarchie et de terrorisme, il est difficile d'annoncer l'Évangile. Pour les inconvertis, l'apôtre Paul nous sollicite en 1 Timothée chapitre 2, verset 21, à prier pour tous les hommes. Les incrédules qui se trouvent sur le chemin de la perdition doivent reconnaître devant Dieu qu'ils sont perdus et venir à Jésus-Christ le Sauveur. Demandons la conversion de nos voisins, de nos collègues de travail, sans oublier que la fervente supplication du juste peut beaucoup. Jacques chapitre 5, verset 16.
Thank you.
C'était Écho de la Bonne Nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Voici notre adresse. Écho de la Bonne Nouvelle. 01 Boîte postale 832 Lomé, Togo. Courriel maison des traités @yahoo.fr.